James Joyce, Dubliners, partie 3. Contrepartie. La sonnerie retentit furieusement, et, quand Miss Parker alla décrocher, une voix non moins furieuse cria avec un vif accent nord-irlandais « Envoyez-moi Farrington !» Miss Parker, en revenant à sa machine, dit à un homme qui écrivait à son bureau « Mr. Alleyne vous demande à l'étage. » L'homme marmonna dans sa barbe « Maudit soit-il !» et il recula sa chaise pour se lever. Quand il se mit sur ses pieds, il se révéla être grand et de forte carrure. Il avait un visage stupide, d'une coloration presque bordeaux, avec des sourcils et une moustache blonde. Ses yeux étaient légèrement gonflés et leur blanc était sale. Il souleva le comptoir et, passant parmi les clients, il monta au bureau d'un pas pesant. Pesant, il le demeura jusqu'au second palier où une porte arborait une plaque de laiton qui portait l'inscription « Mr. Alleyne ». Là, il s'arrêta, le souffle court à cause de la fatigue et de la vexation, et frappa. La voix aiguë cria « Entrez !» L'homme pénétra dans le bureau de Mr. Alleyne, tandis que ce dernier, un petit homme qui portait des lunettes à monture dorée sur un visage rasé de près, pointait sa tête au-dessus d'une pile de documents. Cette tête était si rose et si glabre qu'elle ressemblait à un gros œuf posé sur les papiers. Mr. Alleyne ne perdit pas un instant. « Farrington, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ai-je toujours motif à me plaindre de vous? Puis-je vous demander pourquoi vous n'avez pas fait de copie du contrat Baudelaire-Kirwan? Je vous ai dit qu'il me le fallait pour 4 heures. »
« Mais Mr. Shelley a dit, monsieur... »«
Mr. Shelley a dit, monsieur, je vous prierai de bien vouloir prêter plus d'attention à ce que je dis qu'à ce que dit Mr. Shelley, monsieur. Vous avez toujours une bonne excuse pour éluder le travail. Laissez-moi vous dire que si ce contrat n'est pas copié d'ici ce soir, je porterai l'affaire devant Mr. Crosby. Est-ce bien clair, maintenant ?»«
Oui, monsieur. »
Est-ce bien clair maintenant? Ah, et autre chose encore, je pourrais aussi bien m'adresser au mur qu'à vous. Mais comprenez une fois pour toutes que vous disposez d'une demi-heure et non d'une heure trente pour déjeuner. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? J'aimerais bien le savoir. C'est bien compris?
Oui, monsieur.
Mr. Alleyne pencha à nouveau sa tête sur la pile de papier. L'homme continuait à fixer ce crâne poli qui dirigeait les affaires de Crosby et Alleyne, tout en jaugeant sa fragilité. Un spasme de rage le prit à la gorge pendant quelques instants, puis passa, le laissant seulement extrêmement assoiffé. L'homme reconnut cette sensation et sentit qu'il devrait bien boire ce soir. Le milieu du mois était passé, et s'il pouvait réaliser la copie désirée dans le temps imparti, Mr. Alleyne lui donnerait peut-être une avance sur salaire. Il se tenait toujours debout, regardant fixement la tête qui dépassait de la pile de papier. Soudain, Mr. Alleyne commença à déranger tous les papiers à la recherche de quelque chose. Alors, comme s'il avait été inconscient de la présence de l'homme jusqu'à cet instant, il leva à nouveau la tête et dit « Eh bien, allez-vous rester là planté comme un piquet pendant toute la journée? Ma parole, Farrington, vous n'êtes pas du genre pressé !»«
J'attendais de voir... »«
Très bien, vous n'avez pas besoin d'attendre de voir. Allez en bas et mettez-vous au travail !» L'homme marcha pesamment en direction de la porte, et comme il sortait de la pièce, il entendit Mr. Alleyne lui crier que si le contrat n'était pas dûment copié dans la soirée, Mr. Crosby en entendrait parler. Il retourna à son bureau, en bas, et compta les feuilles qui lui restaient à copier. Il saisit son stylo et le trempa dans l'encre, mais il resta stupidement bloqué sur les derniers mots qu'il avait transcrits. En aucun cas le dénommé Bernard Baudelaire. Le soir tombait, et dans quelques minutes ils allumeraient le gaz, alors il pourrait écrire. Il sentit qu'il devait étancher la soif dans sa gorge. Il se leva de son bureau, et soulevant à nouveau le comptoir, il traversa le bureau. Comme il passait, le commis en chef le regarda d'un air inquisiteur.
« C'est bon, Mr. Shelley, » dit l'homme, en désignant avec son doigt l'objectif de son déplacement.
Le commis en chef jeta un coup d'œil au chapeau déposé sur les patères, et, voyant que la rangée était complète, il s'abstint de toute remarque. Aussitôt qu'il fut sur le palier, l'homme sortit une casquette de berger de sa poche, l'enfila, et dévala l'escalier branlant. Depuis la porte de la rue, il marcha furtivement contre le mur, jusqu'au coin, et tout d'un coup s'engouffra par une porte.
Il était maintenant en sécurité, dans l'alcôve sombre de chez O'Neill, et illuminant la petite fenêtre qui donnait sur le bar de sa tête rubiconde, d'une teinte oscillant entre le bordeaux et la viande rouge, il cria.
« Par ici, Pat, donne-nous une demi-pinte comme un bon garçon !»
Le serveur lui apporta un verre de bière. L'homme l'avala d'un trait et demanda des graines de cumin à mâcher. Il posa son pénis sur le comptoir et, laissant le serveur tâtonner pour le trouver dans l'ombre, il sortit de l'alcôve aussi furtivement qu'il y était entré. L'obscurité, assortie d'un épais brouillard, gagnait du terrain dans ce crépuscule de février et les lampadaires de Stay Street avaient été allumés. L'homme remonta, rasant les maisons, jusqu'à la porte du bureau, et se demanda s'il arriverait à achever sa copie dans les temps. Sur l'escalier, une âcre et humide senteur de parfum pénétra dans ses narines. Manifestement, Miss Delacour était entrée depuis qu'il était sorti chez O'Neill. Il remit sa casquette dans sa poche et revint à l'intérieur du bureau, avec une désinvolture affectée.
« Mr. Allen vous a appelé, » dit le commis en chef d'un ton sévère. « Où étiez-vous ?»
L'homme regarda les deux clients qui étaient debout devant le comptoir, comme pour expliquer que leur présence l'empêchait de répondre. Comme les clients étaient deux hommes, le commis en chef s'autorisa un rire.
« Je connais ce petit jeu, dit-il. 5 fois par jour, c'est un peu... Enfin, vous feriez mieux d'avoir l'air vif et de trouver sans tarder une copie de la correspondance du cas de la cour pour Mr. Allen. »
Cette remarque faite en public, sa montée des marches et la bière qu'il avait descendue si hâtivement le rendirent confus, et, comme il se rasseyait à son bureau pour prendre ce qu'on lui avait demandé, il prit conscience de l'impossibilité de terminer la copie du contrat avant 5h30. La nuit humide et sombre descendait, et il n'avait qu'une envie, c'était de la passer dans les bars, à boire avec ses amis parmi les lumières du gaz et le tintement des verres. Il trouva la correspondance de Delacour et sortit du bureau. Il espérait que Mr. Allen ne remarquerait pas que les deux dernières lettres manquaient. Le parfum, âcre et humide, flottait dans l'escalier, jusqu'au bureau de Mr. Allen. Miss Delacour était une femme d'âge mûr, d'apparence juive. Mr. Allen, à ce qu'on disait, lui faisait les yeux doux, à elle ou à son argent. Elle venait souvent au bureau et restait un long moment quand elle venait. Elle était, présentement, assise derrière le bureau dans son bouquet d'arômes. Elle lissait la poignée de son parapluie, ce qui faisait bouger la grande plume noire de son chapeau. Mr. Allen avait fait pivoter son fauteuil pour lui faire face et avait posé cavalièrement son pied droit sur son genou gauche. L'homme déposa la correspondance sur le bureau et s'inclina respectueusement, mais ni Mr. Allen ni Miss Delacour ne réagirent à sa révérence. Mr. Allen posa le doigt sur la correspondance avant de faire une sorte de chiquenaude comme pour dire « C'est bien, vous pouvez disposer ». L'homme redescendit au premier étage et se rassit à son bureau. Il fixa intensément la phrase incomplète, en aucun cas le dénommé Bernard Bodley, et il s'émerveilla de ce que les deux derniers mots eussent la même initiale. Le chef de bureau commença à presser Miss Parker en disant qu'elle n'aurait jamais fini de taper les lettres à temps pour le courrier du soir. L'homme écouta le cliquetis de la machine à écrire pendant quelques minutes, puis se remit au travail pour achever sa copie. Mais sa tête n'était pas claire, et son esprit s'évadait vers les lumières et l'agitation du pub. C'était un soir à boire du punch chaud. Il se battit avec sa copie, mais quand l'horloge sonna 5h, il lui restait 14 pages à faire. Malédiction. Il n'avait pas eu le temps de la finir dans les temps. Il avait envie de jurer à haute voix, d'asséner un violent coup de poing à quelque chose. Il était si enragé qu'il écrivit Bernard Bernard au lieu de Bernard Baudelet et dut tout recommencer sur une page blanche. Il se sentait assez fort pour vider tout le bureau d'une seule main. Son corps ressentait le besoin douloureux de faire quelque chose, de se précipiter et de s'assouvir dans la violence. Toutes les indignités de sa vie l'enrageaient. Était-il possible de demander une avance en privé à l'employé de la caisse? Non, le caissier n'était pas gentil, pas du tout gentil. Il ne donnerait pas l'avance. Il savait où il pourrait retrouver les gars, Leonard, O'Halloran et Nosey Flynn. Le baromètre de sa nature émotive était à la révolte. Son imagination l'avait emporté si loin que son nom fut appelé 2 fois avant qu'il répondît. Mr. Allen et Miss Delacour étaient debout de l'autre côté du comptoir et tous les clercs s'étaient retournés dans l'attente de quelque chose. L'homme se leva de son bureau. Mr. Alleyne commença une tirade sur ses abus, en se plaignant qu'il manquait 2 lettres au dossier. L'homme répondit qu'il n'en savait rien, qu'il avait fait une honnête copie de tout ce qu'il avait pu. La tirade continua, et elle était si amère et si violente que l'homme put difficilement retenir son poing de s'abattre sur la tête du mannequin qui se trouvait devant lui. « Je ne sais rien à propos de 2 lettres supplémentaires, » dit-il stupidement.
« Vous ne savez rien, bien sûr que vous ne savez rien, » dit Mr. Alleyne. « Dites-moi, » ajouta-t-il en cherchant d'abord du regard l'approbation de la dame derrière lui. « Me prenez-vous pour un idiot ? Pensez-vous que je sois le dernier des idiots ?»
Le regard de l'homme passa du visage de la dame à la petite tête d'œuf, puis revint à la dame, et, presque avant d'être conscient de ce qu'il disait, sa langue eut un moment de félicité.
« Je ne crois pas, monsieur, dit-il, que ce soit là une question bien honnête à me poser. »
Les clercs s'arrêtèrent même de respirer. Tout le monde était éberlué, l'auteur de ce trait d'esprit aussi bien que les autres, et Miss de la Cour, qui était une fort aimable personne, se fendit d'un large sourire. Mr. Alleyne rougit violemment, et sa bouche de nain se tordit dans un rictus passionné.
« Ruffian impertinent ! Ruffian impertinent ! Je ne ferai qu'une bouchée de vous. Attendez de voir, vous présenterez vos excuses pour votre impertinence, ou vous quitterez ce bureau immédiatement. Vous le quitterez, je vous le dis, si vous ne vous excusez pas. »
L'homme se tenait maintenant debout, en face du bureau, et regardait si le caissier allait sortir tout seul. Tous les clercs passèrent, et enfin le caissier sortit, accompagné du chef de bureau. Il était inutile d'essayer de lui en toucher un mot, tant qu'il était avec le chef de bureau. L'homme sentait bien que sa position était déjà assez compromise. Il avait été obligé de présenter d'abjectes excuses à Mr. Alleyne pour son impertinence, mais il savait quel nid de vipère le bureau allait devenir pour lui. Il se rappelait très bien la façon dont Mr. Alleyne avait viré le petit Pic pour faire de la place à son neveu. Il se sentait sauvage, assoiffé et vindicatif, exaspéré par lui-même aussi bien que par autrui. Mr. Alleyne ne le laisserait plus en repos maintenant. Sa vie allait devenir un enfer. N'aurait-il pas pu garder sa langue dans sa bouche? Mais il n'avait jamais pu se supporter, lui et Mr. Alleyne, depuis le début, depuis le jour où Mr. Alleyne l'avait entendu imiter son accent nord-irlandais pour amuser Higgins et Miss Parker. C'était de là que tout était parti. Il aurait pu essayer Higgins pour l'argent, mais à tous les coups, Higgins n'avait rien sur lui. Un homme qui devait entretenir 2 foyers, bien sûr, il n'avait pas de quoi. Il sentit à nouveau son corps réclamer le confort du pub. Le brouillard l'avait un peu calmé, et il se demandait s'il pourrait soutirer quelque chose de patte aux O'Neills. Mais il ne pourrait pas lui soutirer plus d'un shilling, et un shilling, ça ne servait à rien. Et pourtant, il devait bien trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Il avait dépensé son dernier penny pour le médecin et bientôt il allait être trop tard pour trouver de l'argent où que ce soit. Soudain, tandis qu'il tripotait sa chaîne de montre, il songea au prêteur sur gage Terry Kelly à Fleet Street. C'était ça la solution. Comment n'y avait-il pas songé plus tôt? Il longea les 3 truelles du Temple Bar à pas rapide, grommelant dans sa barbe qu'ils pouvaient tous aller au diable parce qu'il allait passer une excellente soirée. Le commis, à Terry Kelly, dit « Une couronne ». Mais le type de la consigne ne débordit pas de la somme de 6 shillings et les 6 shillings lui furent donnés rubis sur l'ongle. Il sortit du prêteur sur gage d'une humeur joyeuse, roulant ses pièces entre le pouce et l'index pour en former un petit rouleau. À Westmoreland Street, la rue était encombrée par des jeunes gens et des jeunes filles qui sortaient du travail, et des gosses en guenilles couraient çà et là en criant le nom des éditions du soir. L'homme fendit la foule, jetant sur le spectacle général un œil fier et satisfait, et lorgnant les filles de bureau avec un air conquérant. Sa tête était pleine du bruit des avertisseurs de tram et des chariots à roulettes, et son nez humait déjà les vapeurs dansantes du punch. Tandis qu'il marchait, il préparait les mots avec lesquels il raconterait cet incident au gars. « Alors, je l'ai regardé froidement, vous voyez, et puis je l'ai regardé elle, et puis je l'ai à nouveau regardé en prenant bien mon temps, vous voyez, et là j'ai dit « Je ne crois pas que ce soit là une question bien honnête à me poser. » Nosey Flynn était assis dans son coin habituel, au Davy Burns, et, quand il entendit l'histoire, il paya à Farrington un demi en disant que c'était la chose la plus spirituelle qu'il ait jamais entendue. Farrington paya sa tournée aussi. Au bout d'un moment, O'Halloran et Paddy Leonard arrivèrent et l'histoire leur fut répétée. O'Halloran paya sa tournée de whisky chaud et raconta l'histoire de la répartie cinglante qu'il avait faite à son chef de bureau quand il était chez Callan, sur Fawn Street. Mais comme sa répartie était à la manière des bergers dans les églogues, il devait convenir qu'elle n'était pas aussi brillante que celle de Farrington. À quoi Farrington répondit qu'il fallait se rincer le gosier et rhabiller le petit. Alors qu'ils étaient en train de commander leur poison, qui voilà ? Higgins ! Bien sûr, il fallait qu'il vienne s'asseoir avec les autres. Les gars lui demandèrent sa version des faits, avec une grande vivacité, parce que la vue de 5 petits whisky chauds était très stimulante. Tout le monde éclata de rire quand il montra comment Mr. Allain agitait le poing sous le nez de Farrington. Et il imita Farrington, disant « Et me voilà, tout calme, pour vous servir », tandis que Farrington observait la compagnie de son œil sale et chargé, souriant et aspirant parfois dans sa moustache des gouttes de liqueur perdues à l'aide de sa lèvre inférieure. Quand cette tournée fut consommée, il y eut une pause. O'Halloran avait de l'argent, mais aucun des deux autres ne paraissait en avoir, et toute la bande quitta le pub à regret. À l'angle de Duke Street, Higgins et Nosey Flynn tournèrent à gauche, tandis que les trois autres prenaient la direction du centre-ville. Une bruine tombait sur les rues froides, et quand ils atteignirent le Ballast Office, Farrington suggéra le Scotch House. Le bar était plein d'hommes et résonnait du bruit des langues et des verres. Les trois hommes poussèrent les vendeurs d'allumettes qui mendiaient à la porte et formèrent un petit groupe à l'angle du comptoir. Ils commencèrent à se raconter des histoires. Léonard leur présenta un jeune gars nommé Weathers, qui faisait l'acrobate et le clown au Tivoli. Farrington paya une tournée générale. Weathers dit qu'il voulait un petit whisky irlandais et un Apollinaris. Farrington, qui avait des notions très claires de ce qu'étaient les choses, demanda aux gars s'ils voulaient aussi un Apollinaris, mais les gars demandèrent leur whisky chaud. La conversation devint théâtrale. O'Halloran paya une tournée, puis Farrington en paya une autre, et Weathers dit que leur hospitalité était toute irlandaise. Il promit de les faire venir dans les coulisses et de leur présenter des gentilles filles. O'Halloran dit que lui et Léonard iraient, mais que Farrington ne pourrait pas parce qu'il était marié. Et les yeux lourds et chassieux de Farrington louchèrent vers la bande quand il comprit qu'on le charriait. Weathers leur offrit juste une petite rasade, puis promit de les retrouver un peu plus tard au Mulligans sur Poulbeck Street. Quand le Scotch House ferma, ils allèrent droit au Mulligans. Ils étaient dans la salle du fond, et O'Halloran commanda des petits whisky chauds pour tout le monde. Ils commençaient tous à se sentir détendus. Farrington était en train de commander une autre tournée quand Weathers revint. Au grand soulagement de Farrington, il but un verre de bitter cette fois. Les fonds commençaient à baisser, mais il y avait encore assez pour voir venir. À cet instant, deux jeunes femmes avec de grands chapeaux et un jeune homme avec un costume arrivèrent et s'assirent à la table d'à côté. Weathers les salua et dit à la bande qu'ils étaient du Tivoli. Les yeux de Farrington cherchaient sans cesse le regard de l'une des jeunes femmes. Il y avait quelque chose de frappant dans son apparence. Une immense écharpe de mousseline bleu roi était accrochée à son chapeau et nouée sous son menton, et elle portait des gants jaunes vifs qui lui remontaient jusqu'au coude. Farrington lorgnait avec admiration le bras dodu qu'elle bougeait sans cesse, avec beaucoup de grâce. Et quand, après un petit moment, elle répondit à son regard, il admira encore plus l'expression de ses grands yeux bruns. La façon dont elle le fixa, de manière oblique, le fascina. Elle lui lança un ou deux regards, et, au moment de partir, elle frôla sa chaise et dit « Oh, pardon !» avec un accent londonien. Il la regarda quitter la pièce dans l'espoir qu'elle se retournerait vers lui, mais il fut déçu. Il maudit son manque d'argent, et maudit toutes les tournées qu'il avait payées, et en particulier tous les whisky et apollinaris qu'il avait payés à Weathers. S'il avait bien une chose en horreur, c'était les éponges. Il était tellement énervé qu'il avait perdu le fil de la conversation de ses amis. Quand Paddy Leonard l'interpella, il comprit qu'ils étaient en train de parler de tours de force. Weathers montrait ses biceps à tout le monde et fanfaronnait tellement que les autres en avaient appelé à Farrington pour relever l'honneur national. Farrington se mit donc en devoir de retrousser ses manches et montra ses biceps également. Les deux bras furent dûment examinés et comparés, et finalement on se mit d'accord sur un bras de fer. La table fut débarrassée, et les deux hommes posèrent les coudes et joignirent les mains. Quand Paddy Léonard dit « Go !», chacun essaya d'abaisser le bras de l'autre jusqu'à la table. Farrington avait l'air très sérieux et très déterminé. Le bras de fer commença. Après environ 30 secondes, Weathers fit lentement descendre le bras de son adversaire jusqu'à la table. La face cramoisie de Farrington, sous l'effet de la colère et de l'humiliation d'avoir été battu par un adolescent, était devenue d'un bordeaux plus foncé.
« Tu n'es pas censé mettre tout le poids de ton corps dans le bras, » dit-il, « sois fair-play. »«
Qui n'est pas fair-play ?» dit l'autre.
« On recommence, en trois manches. »
Le bras de fer recommença. Les veines de Farrington lui sortaient du front, et la blancheur de teint de Weathers se mua en rouge pivoine. Leurs mains et leurs bras tremblaient sous la tension. Après une longue lutte, Weathers abaissa à nouveau, lentement, le bras de son adversaire sur la table. Il y eut un murmure admiratif dans l'assistance. Le serveur, qui se tenait debout derrière la table, secoua sa tête rousse et s'adressa au vainqueur, disant avec une familiarité stupide
« Ah, quel talent !»«
Et qu'est-ce que t'y connais, nom de Dieu ?» dit Farrington avec férocité, en se tournant vers lui. « Qu'est-ce que t'as à mettre ton grain de sel ?»«
Allons, allons !» dit O'Halloran, en voyant l'expression violente sur le visage de Farrington.
« Réglons l'addition, les gars. On va prendre un dernier petit smahan et puis on va y aller. » Un homme avec un visage très renfrogné se tenait au coin du pont O'Connell et attendait le tram de Little Sandy Mount qui le ramènerait à la maison. Il bouillait de colère et de désir de vengeance. Il se sentait humilié et furieux. Il n'était même pas saoul. Il n'avait plus que 2 pence dans sa poche. Il maudissait tout. Il s'était grillé au bureau, il avait mis sa montre en gage, il avait dépensé tout son argent et il n'était même pas saoul. Il commença à avoir soif à nouveau et il eut envie de retourner dans le pub chaud et enfumé. Il avait perdu sa réputation d'homme fort, il avait été battu par 2 fois par un blanc-bec. Son cœur débordait de fureur et quand il pensa à la femme au grand chapeau qu'il avait frôlé et qui avait dit « Pardon !», cette fureur l'étouffa quasiment. Son tram le déposa à Shelbourne Road et il traîna son grand corps dans l'ombre du mur des baraquements. Il rechignait à rentrer à la maison. Quand il entra par la porte latérale, il trouva la cuisine vide et le feu dans l'âtre presque éteint. Il brailla en direction de l'étage. « Ada ! Ada !» Sa femme était une petite femme au visage pointu qui harcelait son mari quand il était sobre et se faisait harceler par lui quand il avait bu. Ils avaient 5 enfants. Un petit garçon accourut dans l'escalier. « Qui va là ?» dit l'homme, qui essayait de percer l'obscurité.
« C'est moi, pas. »«
Qui, moi ? Charlie ?»«
Non, pas. Tom. »«
Où est ta mère ?»«
Elle est sortie, à l'église. »«
C'est juste. Elle a laissé quelque chose pour moi pour le dîner ?»«
Oui, pas. Je... »«
Allume la lampe. Pourquoi as-tu laissé la maison dans le noir ? Est-ce que les autres enfants sont au lit ?»
L'homme s'assit lourdement sur l'une des chaises, tandis que le petit garçon allumait la lampe. Il commença à singer l'accent plat de son fils, en se disant à moitié pour lui-même.
« À l'église, s'il vous plaît !»
Quand la lampe fut allumée, il frappa du poing sur la table et cria « Qu'est-ce qu'il y a à manger ?»«
Je vais le réchauffer, pas, » dit le petit garçon.
L'homme bondit furieusement et montra le feu.
« Sur ce feu-là ? « Tu l'as laissé mourir ! Bon Dieu, je vais t'apprendre à refaire ça la prochaine fois !»
Il fit un pas vers la porte et attrapa la canne qui était posée à côté.
« Je vais t'apprendre à laisser mourir le feu » dit-il,
en retroussant sa manche pour se donner les coups des franches. Le petit garçon cria
« Oh, pas !»
et il courut en pleurnichant autour de la table, mais l'homme le suivit et l'attrapa par la chemise. Le petit garçon regarda autour de lui avec des yeux fous, mais ne voyant aucun moyen de s'échapper, il tomba à genoux.
« Tu vas voir si tu laisses mourir le feu la prochaine fois !» dit l'homme en le frappant vigoureusement de la canne. « Prends ça, petit morveux !»
Le garçon laissa échapper un gémissement de douleur quand le bâton lui entama la cuisse. Il joignit les mains dans l'air et sa voix trembla de peur.
« Oh, pas !» supplia-t-il. « Ne me bats pas, pas ! Et je dirai un « Je vous salue, Marie, pour toi, pas !»
Je dirai un « Je vous salue, Marie », pour toi si tu me bats pas. Je dirai un « Je vous salue, Marie ».